Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elle s'attable ».
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Elle s'attable, le podcast des femmes qui changent le monde par l'assiette. Aujourd'hui, nous sommes dans le premier arrondissement de Paris, pas très loin du Louvre. On a passé une porte en bois blond, qui se cache derrière une petite façade sombre, et on est rentré dans un restaurant relativement vaste, mais pas immense non plus, qui cache l'une des tables qui a peut-être le plus agité Paris depuis 10 ans. Il s'agit de Yamcha, qui est le restaurant fondé par Adeline Grattard en 2010, si ma mémoire est bonne. Bonjour Adeline.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Merci beaucoup de nous consacrer un peu de temps. On va partir avec vous sur les routes de l'ailleurs, les routes du rêve depuis l'enfance. On va parler de liberté, on va parler de réalisation de soi, on va parler de dépassement aussi avec vous aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite par l'enfance. Comment êtes-vous tombée dans la marmite de la cuisine, Adeline Grattard ?
Je pense que je suis née dans une marmite, en fait, parce qu'on ça cuisinait à la maison. Mes parents n'étaient pas des professionnels de la restauration, ni mes grands-parents, mais on se retrouvait toujours autour de la table, toujours dans les confitures, toujours avec des cerises à cueillir ou des patates à ramasser, parce qu'on vivait à la campagne. Et mes parents ont toujours été très proches des produits naturels et donc nous ont baignés dedans avec ma sœur.
Vous grandissez à Dijon, dans la région en Bourgogne, qui est quand même une grande région, non seulement viticole, mais également gastronomique française. Il semblerait que votre arrière-grand-mère, que vous avez connu votre arrière-grand-mère, et qu'elle aussi cuisinait beaucoup.
Oui, c'était la génération qui a été privée pendant la guerre. Mon arrière-grand-mère est était née en 1907, je crois. Donc voilà, quand elle était jeune épouse, elle n'avait pas de quoi faire tout le temps. C'était la guerre. Et après, il y a eu l'après-guerre. Et il y a eu une profusion de produits, d'accès aux choses. Et elle faisait une cuisine donc très riche, très, très traditionnelle, bourguignonne.
Oui, mais délicieuse.
Et elle me gardait quand j'étais toute petite. Et je me revois très bien sur la table de la cuisine, sur une toile cirée, assise, et j'observais. Elle me disait tu regardes, tu attends, je dois faire à manger. Et je me souviens des odeurs aussi du beurre grillé, de la queue de cabillaud qu'elle allait chercher tous les mercredis au marché, en courbouillon. Et ça sentait le laurier, ça sentait le thym. Donc une cuisine très traditionnelle, mais bonne.
Votre enfance est aussi, au-delà de ses racines bourguignonnes, marquée quand même par un petit peu d'ailleurs. Racontez-nous ça.
J'ai eu la chance de voyager très jeune. Mon premier voyage voyage, j'étais dans les Caraïbes à l'âge de 4 ans. C'était en Guadeloupe, on mangeait local, on mangeait pimenté. Et je me souviens encore de ce premier voyage, en tombant sur un piment. Je ne savais pas ce que c'était, je croyais que c'était de la tomate ou c'était rouge. Et m'enflammer la bouche avec ça. Je pleurais. C'est les premiers souvenirs, des souvenirs d'Accra au bord de la route, de poulet boucané. Et j'adorais ça, en fait. Et puis, donc, il y a eu les Caraïbes, il y a eu l'océan Indien, beaucoup de fois. Il y a eu l'Afrique aussi. Donc, tout ça, je pense que ça a ouvert mon palais sur un exotisme et une attirance, vraiment, sur une nourriture avec du relief, en fait. Et puis, il y a eu aussi l'ouverture sur la Chine grâce à ma tante. Donc, ma tante était mariée à un Hongkongais. Ils sont venus vivre à Londres et elle cuisinait chinois parce qu'elle a vécu un petit peu là-bas. Donc, très tôt aussi, j'ai découvert les dim sum, le riz cantonais, les choses que ma tante faisait à la maison. Mais c'était pas le riz cantonais du traiteur chinois, c'était le riz cantonais avec la saucisse chinoise ramenée de Hong Kong, avec les crevettes séchées, les choses très authentiques.
Et puis le temps passe, vous entamez des études d'allemand. Pourquoi ?
Alors à cette époque-là, j'étais cavalière. Ma meilleure amie était cavalière aussi. Ma sœur n'était pas cavalière, mais était aussi traînée sur les bancs de la fac. Donc les trois entraînaient sur les bancs de la fac à Dijon dans des études de langue. Les deux aînés en anglais. Bon, moi j'avais allemand en LV1 et j'adorais ça. Je suis donc partie faire mon DUG en Allemagne, à Mayence, Mainz am Rhein. Et là, j'ai commencé à travailler en cuisine. Parce qu'en Allemagne, on a 10 ou 12 heures de cours par semaine. C'est très léger. On a un petit job. Un jour, j'ai vu une petite annonce dans un bistrot. Ça s'appelait le Zum Beistuhl. C'est le confessoir. Je cherchais une aide cuisinière. Je m'étais dit, pourquoi pas? Je sais éplucher des pommes de terre. Je sais éplucher de la salade. Ça s'est fait. Ils m'ont prise. Et plus ça allait, plus je prenais ma place dans cette cuisine jusqu'à remplacer... c'était pas vraiment un chef, c'était un patron qui cuisinait. C'était pas difficile. C'était des salades, c'était des saucisses, des choses simples. Et puis j'ai pris ma place et on s'entendait très très bien. Il avait besoin de souffler un peu et moi je disais je peux faire.
Et à force de faire, vous teniez la cuisine.
Tenir, c'était un grand grand bien mot, mais oui, je faisais le travail en tout cas avec beaucoup de plaisir et puis de dextérité en fait un peu
de facilité.
Facilité, oui.
Et à quel moment, Adeline Grattat, vous êtes-vous dit je vais quitter le destin que je m'étais imaginé pour en embrasser un autre?
En revenant sur une année de licence à Dijon, où là je pense qu'on faisait pour la troisième fois le programme du Moyen-Âge allemand. Et là je me suis dit c'est plus possible en fait, je trouvais plus de sens à ces études. Et puis je me suis dit non, je vais faire autre chose. Et je suis tombée complètement par hasard. J'ai dû quand même regarder, je me souviens plus bien, mais cuisine ou sur un document de l'école Ferrandi. Et je sais pas, j'ai vu ces jeunes avec...
Une forme de révélation.
Après, c'est passé un petit peu de temps pour convaincre les parents, tout l'environnement. Et puis, je me suis engagée dans cette école.
Donc, vous arrivez à Paris pour faire l'école Ferrandi.
Oui.
En parallèle, vous continuez à faire du cheval.
Oui. Tout à fait.
Et au bout de quelques années, vous êtes diplômée et vous enchaînez les postes assez intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez enchaîné donc Flora Mikula. Vous êtes allée chez Yannick Aleno aussi. Donc vous avez enchaîné quelques chefs relativement connus. Et Yannick Aleno, à l'époque, était le chef du Scribe, grand hôtel, donc grosse brigade. Est-ce que vous avez trouvé votre place, Adeline Grattat ?
Je ne trouvais pas du tout ma place au Scribe. Et pourtant, j'adorais la cuisine de Yannick Aleno qui a... À cette époque-là, il était encore très jeune. Hein. On parle de... Ça fait 15... Non, ça fait même plus que ça. Ça fait 18 ans, je pense. 18-20 ans. Donc, il venait d'avoir sa deuxième étoile au Scribe. Il était clairement en train d'en chercher une troisième avant de déménager au Meurice. Donc, il était affûté. Il avait une cuisine très précise. Mais sa brigade était une brigade de soldats, une grande brigade où il y avait peu de place aux stagiaires. Et je ne me plaisais pas. Mais je le remercie en fait de m'avoir prise déjà dans cette brigade et il m'a permis de réaliser que je voulais travailler dans une petite maison et pas dans une grande structure d'hôtel où il y avait trop de monde qui touchait à tout et du coup il m'a permis de postuler chez Pascal Barbeau.
Racontez-nous, donnez-nous quelques détails sur cette rencontre.
Pascal Barbeau, donc c'était... une lubie, une attirance. J'avais lu un article dans un magazine et puis... Il venait de démarrer, je pense qu'il avait 2 ans d'astrance, et voir sur sa carte écrit foie gras, groseille, gingembre. Et ça a été comme une fléchette entre les deux yeux. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de postuler, on va voir. J'ai réussi à dégoter un poste après quelques mois d'attente. J'ai eu beaucoup de chance, c'est un poste qui s'est libéré. Donc, ça a été vraiment un grand saut, je dirais, du bord de la falaise, parce que j'étais débutante, je sortais de l'école et il me proposait un poste de chef de parti. Et je ne savais pas encore ce qui allait me tomber dessus.
Oui, parce que c'est une cuisine dans laquelle on fait beaucoup de choses. Les responsabilités sont énormes sur les chefs de parti.
Je pense que j'étais complètement... Je ne réalisais pas du tout ce que j'avais à faire. Et je me suis engagée dans cette mission en n'ayant pas conscience, en fait. Et heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas prétendu à ce poste. Donc, les débuts ont été très, très durs. Très, très durs. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Je pense qu'à mon deuxième jour, Pascal Barbeau m'a regardée et m'a dit « Mais en fait, tu ne sais pas couper ». J'étais dépitée,
avec un couteau.
Je pleurais tout le temps, enfin, j'y arrivais pas, et puis ça s'est quand même fait. Il a eu beaucoup de patience, et je pense qu'il a vu en moi l'intention de vouloir toujours bien faire, et il s'est un peu acharné sur moi, et puis j'y reste au final plus de 3 ans.
Qu'avez-vous appris à l'astrance?
J'ai appris à parler avec les produits. Je me souviens, il me regardait, il me disait « Mais parle avec les produits !»
Mais elle ne parle pas, la poularde.
Non, j'ai appris à couper. Tout simplement, je pense que la première chose que j'ai appris à cette époque-là, il faisait comme un petit sandwich d'avocat à la chair de tourteau, à l'huile d'amande douce et aux zestes de citron. Et il me faisait choisir les avocats que j'allais couper. Et ça paraît simple, ça paraît logique, mais il m'a appris à choisir les avocats. C'était le premier, donc, à regarder les produits.
Donc, dialogue avec les produits, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses que vous a appris Pascal Barbeau.
La sensibilité à l'assaisonnement, beaucoup, la sensibilité à la cuisson. Et puis, je pense qu'il m'a surtout appris à me dire, il faut faire une cuisine personnelle, il faut oser. Il faut oser, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on pense. Et il m'a donné l'assurance de faire ça, en fait. Mmh. Parce que quand je suis sortie de l'astrance, bon, j'étais encore toute timide, toute jeune. Mais si je n'avais pas eu ce bagage avec lui pendant 3 ans, je pense que je n'aurais jamais créé Yamcha.
Un petit peu avant l'astrance, vous faites une autre rencontre, Adeline, qui va avoir une grande importance dans votre vie. Celle de Chiwa, qui va devenir votre mari.
Donc j'ai rencontré Chiwa effectivement en 2002, à cette époque-là j'étais encore en école de cuisine. Donc Chiwa est un homme venant de Hong Kong, ça faisait très longtemps qu'il vivait déjà à Paris, lui a fait les beaux-arts à Poitiers, et puis bon, donc on se rencontre, et c'est un gars qui faisait son marché, qui aimait cuisiner, chinois, et il m'invitait à manger, il me séduit avec sa cuisine, un simple bar vapeur, des fruits de mer sautés, haricots de soja noir, et ça va être encore, c'est des choses que je vais faire encore maintenant, pour vous dire comme quoi il m'a marqué. Et puis donc on a eu 20 ans de vie commune où il y a eu beaucoup de voyages en Chine. Quand on était sans restaurant et sans enfants, on partait chaque été sac à dos découvrir la Chine profonde, et donc on s'est pas mal baladé, toujours dans une quête de bien manger, de découvrir des choses. Lui aussi s'est beaucoup formé sur le thé, a beaucoup cherché dans toute la région du Yunnan, du Sichuan, des thés d'exception. On a beaucoup dégusté de thé ensemble, et puis on a vécu aussi ensemble 3 ans à Hong Kong.
Alors ça, c'est quelque chose d'assez rare, parce que beaucoup de chefs aujourd'hui partent à l'étranger, mais à l'époque où vous le faites, ça se fait beaucoup moins, et surtout ça ne se fait pas forcément de la manière dont vous l'avez vécu. Vous allez à Hong Kong et vous y découvrez la cuisine de rue.
Je découvre la cuisine de rue, la cuisine aussi populaire, mais de restaurants, dans des quartiers complètement... où il y a peu d'étrangers, en fait, où il y a peu d'expatriés, exactement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais ça, grâce à Chihua, qui me permet de découvrir un Hong Kong très pittoresque et très intègre, en fait. Et ma cuisine en est inspirée encore.
Vous tombez en amour pour la cuisine chinoise?
Oui, oui, complètement. Je deviens complètement dingue. Il y a plein de choses que je connais pas. Et aux sorties de l'Astrance, où ça avait été quand même très, très intense, je vois encore une nouvelle porte s'ouvrir. Et ça, ça a été énorme dans mon parcours. Parallèlement, je travaillais aussi. Je travaillais donc chez Alvin Leung, un restaurant qui s'appelle Bo Innovation, qui existe toujours. Et cet homme-là aussi, Alvin Leung, donc un Chinois de Hong Kong, un pur Hongkongais.
Chef étoilé.
Et j'ai aussi appris énormément entre Chihua, Alvin Leung. Ça a été des années très, très riches qui m'ont permis de revenir avec un bagage énorme. Je ne le savais pas. J'avais l'impression que je ne savais rien faire. Mais on revient donc en 2009.
Et avec votre nouveau meilleur ami, le wok.
Avec le wok. Avec une petite fille sous le bras et avec le wok. Parce que Nina est née à Hong Kong. Et je fais donc installer un wok dans le petit restaurant qu'on rachète rue Sauval.
Le wok est un mode de cuisson rapide qui permet aux aliments de garder toutes leurs saveurs et propriétés nutritionnelles. Il a l'avantage de nécessiter très peu de matière grasse.
Dans un wok très chaud, je mets un filet d'huile d'olive. Je répartis l'huile sur toute la surface, le fond et sur la moitié de la hauteur à peu près.
Alors c'est une cuisine très saine du point de vue médical parce que ce sont des cuissons courtes qui respectent le produit, parce que ce sont des produits extrêmement frais. C'est à la fois cuit suffisamment pour être parfaitement digeste, mais pas trop cuit, pas surcuit, avec peu de graisse, peu de sel, peu d'ingrédients qui dénaturent.
Le wok fait aujourd'hui partie intégrante de bon nombre de cuisines, et ce à juste titre, parce qu'il a des utilisations incroyablement variées. On peut s'en servir pour cuire, rissoler, mijoter, étuver ou frire. Un ustensile parfaitement polyvalent, tout simplement.
Après le contact direct avec les bords très chauds, c'est la vapeur en cuisant qui va terminer ma cuisson de légumes. L'eau s'est maintenant évaporée, j'ajoute mes poivrons.
Oui, mais alors la question au départ, si tu veux, c'était est-ce que c'est indispensable de cuisiner avec un wok ? Donc, ma réponse à moi, c'est un grand oui, parce que je trouve que c'est vraiment un instrument super intéressant à avoir chez soi. Maintenant, est-ce que ça vous empêche de faire des plats asiatiques ? Certainement pas.
Rapide à préparer et colorer, varier les légumes selon les saisons, sans oublier tout ce qui est herbes et aromates pour personnaliser votre poêlée de légumes.
Elle s'attable.
Le wok, c'est donc cet instrument absolument typique de la cuisine chinoise du sud de la Chine, qui est une sorte de poêle casserole faite d'un morceau de tôle arrondi, qui est une forme de... Alors, c'est pas une demi-sphère, mais un tiers de sphère.
Oui, qui a une profondeur.
Et qui permet de tout faire sur le feu.
Oui, et c'est une casserole en fait profonde, très fine, métallique très fine, pour véhiculer une chaleur très violente, très, très forte. Et qui, en fait, on roule à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a cette forme presque conique, en fait. Et on roule ces ingrédients dans ce métal très chaud. Et il y a un rapport entre le feu et l'eau énorme. Ce qui permet de cuire très rapidement. Et en fait, je tombe complètement dingue de cette sensation de cuire très rapidement, très efficacement, avec un goût qui est inégalable. Les saveurs sont très marquées par ce goût de feu. Et je fais installer un wok rue Sauval où là va commencer l'histoire de Yamcha, en fait.
Alors, Yamcha, donc, que vous ouvrez, tout petit restaurant qui fait de mémoire à peu près 50-70 mètres carrés, pas plus que ça. La cuisine est visible, totalement visible. Parfois, les vitres sont recouvertes de buée car vous faites aussi beaucoup de vapeur. Et carton absolu.
Je pense qu'il y avait une curiosité parce qu'on a proposé, on proposait une cuisine alors faite par une Française mais un peu chinoisée. Chihua proposait ses accords avec le thé, donc ça c'était complètement nouveau. Donc on s'intéressait à nous et nous derrière, on turbinait pour essayer de satisfaire ça et puis ça a créé le yamcha. Enfin, ça...
Les années passent, les enfants arrivent,
oui.
Trois.
Oui,
déjà,
oui.
Les affaires se poursuivent puisque vous déménagez Yamcha de l'Ingrata pour une nouvelle adresse qui est celle dans laquelle on enregistre aujourd'hui. Et là, le propos est différent et le lieu est assez différent. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans ce Yamcha-ci, pardon?
On avait besoin, après 6 ans passés rue Sauval, on avait besoin un peu de hauteur de plafond. La rue Sauval était très sombre avec des poutres. Bref, on avait besoin d'espace et puis quand on a... eu l'opportunité de reprendre un local à 20 mètres, en fait, donc rue Saint-Honoré, qui n'était pas un restaurant, donc on pouvait faire à notre façon. Et on l'a fait pour une quête d'évolution, d'espace aussi, de meilleurs outils de travail. Et là, effectivement, la donne est un petit peu différente parce que c'est plus grand, c'est plus luxueux. On y met des matériaux un peu plus précieux que ce qu'il y avait rue Sauval. Et il y a plus de place assise aussi.
Ce qui reste un petit restaurant avec 30 couverts par rapport à la moyenne des établissements. Et ce qui signifie que vous avez aussi une petite équipe en cuisine.
On n'est pas beaucoup, après on est quand même plus que rue Sauval, donc ça aussi c'était nouveau pour moi d'avoir 3 personnes avec moi au lieu d'une, et puis aussi une équipe de salle qui s'étoffe avec un directeur de salle, avec
une sommelière
qui était déjà là, donc beaucoup plus de choses à gérer et puis une installation difficile. J'ai comme, quand je suis sortie de ma cuisine de la rue Sauval, j'ai comme eu un blanc total où j'arrivais plus du tout à cuisiner en fait. Et les 3-4 premiers mois, c'était, je revois les assiettes, il n'y avait aucune expression. Et les clients le disaient, ils étaient déçus, ils me disaient qu'ils préféraient le petit yamcha. Et très, très dur.
Oui, il a fallu apprivoiser cette nouvelle adresse.
Oui. Et cette nouvelle cuisine, alors que j'ai fait installer un wok qui était beaucoup plus puissant, une vapeur plus puissante, il y avait plus de puissance, mais je n'y arrivais pas. Et comme quoi, on met toujours du temps à s'approprier un lieu.
Vous continuez sur votre lancée, gourmande toujours, avec donc vous transformez le petit yamcha en boutique de thé, mais en entendant, on peut aussi manger des bao, qui sont très typiques également de la cuisine chinoise et qui n'étaient pas très connues en France à l'époque. Qu'est-ce qu'un bao, Adine?
Le bao chinois est à base de farine de blé et pas comme...
Il vient du nord de la Chine.
Exactement. Qui est cuite donc à base de levure fraîche et sèche. C'est un petit sandwich fermé, cuit à la vapeur et l'intérieur cuit en même temps que la pâte. Parce qu'on a transformé aussi ce bao en bao burger.
Ça n'est pas la même chose.
C'est pas du tout, techniquement, c'est pas du tout la même chose.
Et vous ouvrez un troisième établissement, il y a quelques années, qui s'appelle le Café Laïcha, qui est juste à côté des Halles. Alors là, on est sur quelque chose de complètement différent, immense hauteur sous plafond. Et vous y consacrez une cuisine qui s'intéresse plus à l'Asie du Sud-Est.
À l'ouverture, oui. Pourquoi? Je sais pas. Je me disais que c'était peut-être un peu plus sexy, peut-être
différent.
Moins dur à reproduire aussi. Un peu d'influence thaï, un peu d'influence de l'océan Indien. Et puis, je me suis trompée. En fait, j'ai rechangé. Après les années Covid, les 2 années de repos, on a rechangé. C'est complètement chinois. Maintenant, on y fait des dim sum, on y fait que de la cuisine chinoise.
Alors, nouveau chapitre de vie, un 4e enfant, félicitations. D'où tirez-vous cette énergie?
Je pense de l'amour de la vie, en fait. J'adore les enfants. Ils m'inspirent beaucoup. J'adore le rapport avec eux, même si on peut s'imaginer que j'ai quand même pas énormément de temps à passer avec eux. Mais c'est des moments courts et très intenses qui me nourrissent.
Est-ce qu'être maman a changé votre rapport à la nourriture, à la cuisine, à la gastronomie, Adeline, ou pas du tout?
Le fait d'être maman m'a beaucoup assouplie. En fait, quand j'étais jeune, à 30 ans, quand j'ai ouvert le yamcha, j'avais Nina déjà, mais j'étais dure, j'étais odieuse, j'étais surmenée. J'avais l'impression d'être surmenée, en fait. Mais je ne savais pas encore ce que c'était vraiment d'être surmenée. Et Je me souviens, je regrette beaucoup hein, des choses que j'ai dites à des employés, à des jeunes qui venaient travailler avec moi en cuisine. J'étais infernale, en fait.
Intransigeante.
Pas intransigeante, non, infernale. Je pense que je manquais peut-être de confiance en moi. J'étais paniquée, en fait. Et les enfants m'ont donné une assise énorme, énorme. Parce que cette responsabilité, en fait, de les élever, de les rendre heureux, je pense que c'est de les rendre heureux, la plus grosse responsabilité, ça fait pas mal réfléchir. Et puis, les déceptions, les bonheurs, les enfants donnent beaucoup de choses.
Est-ce que vous diriez que la vie est belle aujourd'hui ?
La vie est belle. La vie est super belle. Et je pense que ces 2 années Covid m'ont beaucoup apporté.
Du temps déjà,
du temps du repos, du temps du repos, et ça a été énorme. Le deuxième confinement, on est quand même resté fermé 9 mois au restaurant gastronomique, donc il y a eu énormément de repos, de sommeil, chose qu'il n'y avait plus dans ma vie
depuis 25 ans.
et ça a permis de voir les choses autrement. Et de rêver, de re-rêver à nouveau, de construire du fantasme. C'est hyper important pour moi de fantasmer sur des petites choses de vie. Quand je suis fatiguée, quand je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire plus tard et ça la fatigue pas.
Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui et comment imaginez-vous votre vie dans les années à venir ?
Je pense qu'en ce moment, les produits m'inspirent toujours parce qu'on est... On a tellement de belles choses qui arrivent à nous. Enfin, ça paraît banal ce que je vais dire, mais c'est énorme. La source d'inspiration est énorme. Les enfants m'inspirent beaucoup. Dans le souci de leur construire une belle vie, et donc je dois graviter autour de ça. Les voyages, plus trop, parce que ça fait un moment que je n'ai pas voyagé, donc j'espère que ça va revenir. Le bien-être m'inspire beaucoup, en fait.
Souvent, à la fin de ce podcast, on demande aux femmes si elles pensent effectivement que les femmes, le fait d'être femme, permet de changer le monde et quel rapport particulier ça peut avoir sur leur travail, sur ce qu'elles font. Qu'est-ce que vous répondriez à ça, Anne-Lie Guintard ?
Bon, je pense que ça serait prétentieux de dire que les femmes changent le monde. Enfin, moi, je ne le pense pas, mais je pense que la femme a de la chance. La femme a de la chance d'être une femme parce qu'on s'intéresse à elle, on la regarde souvent. La femme a la chance de produire beaucoup de choses en même temps, d'être très productive. Et c'est peut-être en ça qu'elle fait avancer les gens qui suivent derrière, qui sont... Et qu'elle peut être inspirante, qu'elle peut être un moteur. Et je pense que la gente féminine a beaucoup de force et effectivement fait bouger les choses. Et comme on nous met de plus en plus en lumière, avec les époques qui passent, effectivement, il y a une émulation de femmes qui bougent et qui s'engagent et qui construisent.
Merci beaucoup, Adeline, pour le moment partagé. J'espère à tous que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer. Et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Elsa Table.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.